Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie. Et on va évoquer avec elle, comme chaque semaine, les titres, les gros titres à apparaître à la une de cette nouvelle édition. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence, comme chaque semaine, avec le dossier à la une de la Marseillaise. Et ce dossier porte sur la crise de l'hôpital public.
Oui, tout à fait. En fait, nous sommes penchés sur ce qui nous a un petit peu titillé, c'est les déclarations d'Emmanuel Macron. Ça nous a donné l'idée de faire ce dossier puisqu'il a, il a annoncé le désengorgement des urgences d'ici un an.
Oui.
Et donc,
on
écrit très souvent sur la situation de l'hôpital public. Hein, c'était quand même un secteur qui est en crise. Et là, dans ce dossier, on a donné la parole à ceux qui font tourner cet hôpital public. On a des témoignages. Et on parle aussi d'une clinique privée à Alès, la clinique Bonnefond, qui est menacée, dont les urgences sont menacées de fermeture. Et en quoi ça impacte aussi l'hôpital public d'Alès. Et évidemment, on a le témoignage aussi d'hospitaliers qui travaillent au CHU de Montpellier.
Mmh. Côté politique, Carole Delga a rencontré 800 maires, du Languedoc-Roussillon à Montpellier.
Oui, alors ça fait partie des rencontres que Carole Delga initie depuis, depuis quelques temps. Mmh. Donc c'est la présidente de la région Occitanie qui est socialiste, mais qui n'est pas vraiment, qui n'apprécie pas vraiment la démarche de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais elle a donc initié des rencontres pour aller au plus près des maires de l'ancien Languedoc-Roussillon, qui fait partie de la grande région Occitanie désormais. Bon, évidemment, toutes tendances confondues, ces maires, et c'est aussi une façon de mettre en œuvre la proximité, qui est un véritable défi dans cette région de 13 départements.
Oui. Direction 7, qui fête ses 350 ans et la ville fait appel à la mémoire de ses habitants en les associant à la création d'une expo.
Oui, exactement. Alors ça, c'est un projet qui fait partie, des projets qui sont lancés dans le cadre de la candidature du territoire Montpellier 7 au titre de capitale européenne de la culture. Ce qui est original, là, c'est que pour célébrer les 350 ans de la cité de 7, c'est les archives municipales qui vont faire appel à 350 sétois qui vont être sélectionnés. En fait, il faut candidater. Les sétois ont jusqu'au 15 mai pour candidater. Mmh. Et il y aura tout un travail autour des archives municipales de l'histoire. Et c'est à la fois mêler l'histoire avec un grand H de la cité, avec l'histoire, l'histoire des habitants qui font cette ville depuis plus de trois siècles et demi.
Allez, on revient sur Montpellier avant d'aller à Nîmes. À Montpellier, donc, le Carré d'Art est promis à une seconde vie artistique avec des travaux importants. Le Carré d'Art, c'est une église néo-gothique.
Exactement, c'est une église qui a été désacralisée, qui a été transformée déjà en lieu d'exposition. Malheureusement, évidemment, il a fallu arrêter ces expositions au public parce que le lieu n'était pas du tout aux normes.
Oui.
Là, il y a des grands travaux qui vont être entrepris pour lui donner justement un nouveau souffle et faire de cette ancienne église néo-gothique un nouveau lieu d'exposition.
Mmh.
Donc, nous avons donc cette qui explique les raisons de cette rénovation. Il y a aussi un coût, c'est plusieurs millions d'euros, mais c'est pareil, ça va donner aussi à Montpellier, qui est une ville très culturelle, un nouveau lieu d'expression pour l'art plastique notamment.
Et pour finir, direction Nîmes qui, comme vous le dites, va buller tout le week-end grâce à son festival de BD.
Alors oui, alors c'est un festival de BD qui se déroule à partir de vendredi jusqu'à dimanche sur l'esplanade de Charles de Gaulle.
Oui.
Donc c'est un véritable village de la bande dessinée hein, qui va se dresser pendant 3 jours. Évidemment, c'est complètement intergénérationnel. Il y a une quarantaine d'autrices et d'auteurs qui vont y participer.
Mm-hmm.
L'intérêt, c'est qu'évidemment, on peut aller à la rencontre de ou alors découvrir des auteurs, hein, discuter avec eux, se faire dédicacer les albums et aussi participer à énormément de propositions d'animation. Il y a une fresque géante qui va être réalisée pendant ce long week-end.
Oui.
par les artistes, par les dessinateurs. Donc il y a aussi des initiatives extrêmement intéressantes à souligner, à savoir les médiathèques aussi de la ville, qui sont des lieux vraiment de ce service public où le livre est vraiment donné à portée de tous. Hein, il va y avoir des animations dans les médiathèques, il va y avoir des animations aussi, il y a des auteurs qui vont aller à la rencontre d'enfants qui sont hospitalisés à l'hôpital de Nîmes, et y compris des détenus donc qui sont en prison, qui vont aussi avoir la visite d'auteurs de BD, d'autrices et d'auteurs de BD.
Mmh.
Donc c'est un événement qui se veut extra et qui est populaire. On va espérer qu'il fasse un beau temps à Nîmes pour pouvoir bien profiter de ce festival de la bande dessinée.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Werner.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, cette une de la Marseillaise avec le dossier qui porte sur la crise de l'hôpital public et notamment sur l'accès aux soins avec des témoignages de soignants, notamment à l'hôpital de Montpellier et à l'hôpital d'Alès.
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ce dossier sur l'hôpital public? On a vu quand même hein, sur la bataille des retraites qui est loin d'être terminée, qu'il y avait énormément de salariés du public et du privé. Et parmi les salariés du public, il y a les agents de la fonction publique hospitalière.
Mmh.
Bon, évidemment, vent debout contre la retraite à 64 ans avec des métiers qui, la plupart, sont pénibles.
Oui.
Et la pénibilité et la difficulté aujourd'hui à l'hôpital public, elle est vraiment importante parce que c'est un lieu ouvert à tous pour soigner tout le monde et qui manque cruellement de moyens.
Oui.
Par exemple, parmi nos témoins, nous avons Pierre Renard. Et c'est un jeune homme de 33 ans. Il est délégué syndical CGT.
Mmh.
Donc c'est important aussi que les syndicats soient aussi implantés pour se faire l'écho des difficultés des soignants. Et ils ont fait des calculs, hein, les syndicats. Hein. Il y a 120 postes vacants à l'hôpital de Montpellier, ce qui est énorme. Et évidemment, en ajoutant, comme il nous l'explique, les heures supplémentaires et les intérimaires, en fait, c'est 300 infirmiers dont aurait besoin cet hôpital pour tourner correctement.
D'accord.
Donc, évidemment, répondre à cette crise, c'est pas simplement une crise des vocations, c'est une crise aussi que l'on peut résoudre en apportant des solutions et des conditions de travail acceptables.
Mmh.
Donc, pour lui, quand on l'a fait réagir, bien évidemment, au propos du président de la République qui a annoncé le désengorgement des urgences d'ici un an.
Oui.
Alors, c'est un effet d'annonce qui a quand même fait doucement rigoler les soignants des urgences, parce que ce que nous explique donc Pierre Renard, c'est qu'en l'état, ce n'est pas réalisable.
Mmh.
Il faut régler d'abord le problème du recrutement des soignants et donc l'ouverture d'hospitalisation en aval pour pouvoir désengorger les urgences.
Mmh.
Voilà, parce que pourquoi les urgences se remplissent ? Pourquoi elles se remplissent ? Pourquoi beaucoup de gens toquent à la porte des urgences ?
C'est le problème
parce
du privé.
Ils n'ont plus de médecins soignants ou de médecins traitants. Pardon. Et donc, c'est une réelle difficulté. Donc, on se tourne vers qui ? On va téléphoner au SAMU, on va téléphoner aux pompiers, et puis, ou alors, on va aller directement soi-même aux urgences.
Eh oui.
Donc, et là, pour les désengorger, la solution, c'est pas de trier, c'est bien d'armer en moyens humains et matériels en aval l'hôpital public.
Mais ça ne va pas se faire en une année, on est bien d'accord.
Exactement. C'est d'autant plus important que le système de soins, c'est toute une chaîne. On parle du public, mais il y a aussi le privé.
Et, oui.
Et là, on a un exemple vraiment flagrant, c'est-à-dire que le 9 mai, il y a eu donc un mouvement de grève aux urgences de la clinique Bonnefond qui se situe à Alès. Mmh. Et donc, pourquoi ce mouvement de grève ? Parce que la direction de la clinique a annoncé la fermeture des urgences le 20 juin.
D'accord.
Cette mobilisation que la Marseillaise est allée couvrir a porté ses fruits. Premier résultat, la fermeture des urgences complète a été repoussée à la fin de l'été. Voilà, ça c'est une première manche de gagner. Sauf que, bon, ça ne sera pas suffisant. Mais il faut savoir que ces urgences avaient déjà été fermées la nuit. Là, c'était des urgences qui étaient ouvertes le jour.
Eh oui.
Donc, ça serait disparition totale. Aujourd'hui, cette clinique, elle reçoit 10 000 passages par an.
Oui.
Ça, c'est Bonnefond. L'hôpital public à côté, à Alès, qui est configuré pour recevoir, c'est-à-dire en moyens humains, hein, pour recevoir 25 000 patients, ils en sont aujourd'hui à 47 000 pour l'année 2022.
D'accord.
Donc, fermer Bonnefond, c'est faire peser sur l'hôpital public encore plus de pression, parce que, évidemment, les personnes n'ont pas les moyens de se tourner vers des urgences qui seraient un peu plus qui seraient ouvertes par ailleurs. Donc l'Agence régionale de la santé, elle est aussi vent debout contre cette fermeture annoncée des urgences de la clinique Bonnefond. Et elle demande à la direction de tout faire, ça c'est ce que dit l'ARS, pour que ce service d'accueil des urgences continue à fonctionner 24 heures sur 24 à l'approche de la période estivale et notamment les week-ends. Donc
d'accord.
L'ARS, c'est-à-dire l'État, demande que ça fonctionne.
Mmh.
Et c'est les soignants sont d'autant plus en colère que l'argument de la direction de la clinique Bonnefond, c'est de dire qu'ils ne trouvent pas de salariés. Or, ils disent que c'est faux. Il y a exactement tous les gens qu'il faut. Tous les soignants sont là pour faire tourner les urgences. Alors, ce que nous disent ces salariés, notamment un urgentiste qui travaille depuis une dizaine d'années à Bonnefond,
oui.
Il dit que c'est pour en fait faire des économies.
On s'en doute.
Et c'est d'autant plus scandaleux que la clinique privée Bonnefond appartient au groupe Elsan.
Mmh.
Et le groupe Elsan, c'est le premier opérateur de santé privée du pays, de la France métropolitaine. Il a 136 autres structures dans l'Hexagone.
Ouais.
Et une des actionnaires de ce groupe, c'est quand même la femme la plus riche du monde. C'est
d'accord.
Le groupe est en cours.
D'accord.
Voilà. Donc, elle pèse 93 milliards à elle toute seule. Donc, et maintenant, on sait, les patients savent ça, les soignants savent ça. Donc, on sait qu'il y a des inégalités croissantes et qu'on ne peut pas concevoir la santé comme une marchandise. Et c'est l'objet de tout notre dossier à paraître vendredi.
À lire dans la Marseillaise. Côté politique, Carole Delga a rencontré 800 maires du Languedoc-Roussillon à Montpellier.
Oui, alors ça s'est passé au début du mois de mai, là. Mmh. Il faut rappeler un petit peu historiquement, même si on peut l'avoir en tête, que Carole Delga, c'est la présidente socialiste de la région Occitanie, qui comprend 13 départements. Oui. Elle a été réélue en 2021 très largement et très bien réélue à la tête de cette région. Mmh. Et donc, elle a initié plusieurs rencontres. Il y a des rencontres qui sont ce qu'elle appelle les rencontres de la gauche, où là, on est dans une démarche de construction avec des partenaires qui composent sa majorité. Mmh. Et puis, il y a, on va dire, des rencontres beaucoup plus larges, où là, elle a vraiment sa casquette de présidente de la région Occitanie. Oui. Et là, elle invite les maires, toutes tendances confondues. Ils se sont retrouvés à Montpellier, quelques 800 maires à participer à ces rencontres, ce qui est quand même un chiffre très très important. Ça montre aussi non pas l'envie de rencontrer Carole Delga pour rencontrer Carole Delga, oui, mais d'aller dire à la présidente de la région, qui est une collectivité très importante, mmh, leur réalité de terrain.
Oui.
Et c'est vrai que on est quand même dans un contexte où, a expliqué aussi le maire de Montpellier, qui a accueilli cette réunion,
oui,
il y a quand même une complexité, ne serait-ce qu'au niveau de notre vie quotidienne, mais aussi au niveau géopolitique, hein. Et donc les fonctions de maire, il y a des répercussions. Par
Et
exemple,
oui,
quand il y a la guerre déclenchée par la Russie de Poutine en Ukraine, les mairies en France vont accueillir des réfugiés.
Et
voilà,
oui,
c'est un exemple pour montrer les impacts que peuvent avoir des questions qui semblent géopolitiques, mais qui concernent au premier chef notre quotidien et le quotidien de beaucoup de maires.
Oui.
Donc, ils sont venus dire aussi à Carole Delga ce qui n'allait pas, plus que ce qui allait.
Oui.
C'est normal. C'est pas des doléances, mais par exemple, ils ont beaucoup parlé, certains d'entre eux ont beaucoup parlé de désertification médicale.
Et, oui,
et là, on sait que la région fait quelque chose d'important. Il y a notamment un maire de l'Aveyron qui a alerté sur une nouvelle fois des menaces qui planent sur le de Decazeville,
mmh,
voilà, carrément des menaces de fermeture. Hein.
D'accord.
Et donc, ça permet aussi à la région de venir en soutien et de dire que elle a quand même, c'est une des rares, voire la seule région qui recrute des soignants dans les zones dites en tension, c'est-à-dire en fait, elles ne sont pas en tension, elles sont en désert médical.
Oui.
Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été abordées sur, par exemple, la filière bois-énergie, pour mieux la valoriser. Il y a aussi la question des déplacements.
Oui.
Donc on voit très bien que ce sont des rencontres, en tout cas, qui permettent déjà aux élus de se rencontrer. Peut-être de se fédérer sur un certain nombre de questions.
Oui.
Et il y a un truc très important, c'est que on est dans une région, on le sait, qui a une croissance démographique qui est absolument phénoménale. Hein.
Oui.
Et si on veut, au regard de cette croissance démographique, il faut de la création d'emplois. Pour faire baisser aussi un taux de chômage
Et
qui,
oui,
au niveau régional, est toujours élevé par rapport, mmh, au niveau national. Donc, c'est toujours la même chose. Ça permet ces rencontres aussi de discuter comment concilier développement économique, création d'emplois, et évidemment, tout ça dans un contexte de réchauffement climatique,
oui,
et donc de changement aussi de mode de production, de limitation de l'empreinte carbone. Alors, c'était pas un salon des maires, hein, c'était pas simplement, c'était vraiment quelque chose qui se voulait constructif.
Mmh.
Compliqué de tout, de rendre compte de tout dans un article, même s'il est conséquent, mais c'est ce qu'on s'est appliqué à faire cette semaine dans la Marseillaise.
Allez, direction 7, Françoise, qui fête ses 350 ans. Et
oui.
La ville fait appel à la mémoire de ses habitants. Et on sait qu'il y en a, en les associant à la création d'une exposition.
Mmh. Oui, exactement. Alors, Sète aime bien les anniversaires. Hein.
Oui.
Il y a 7 ans, il y avait les 350 ans de son port. C'était donc en 2016. Et donc, le 30 septembre, hein, donc juste après la rentrée, hein, il y aura donc la célébration de ces 350 ans de la création de la ville, à proprement parler. Donc, elle a été créée un 30 septembre 1673 par un arrêt du Conseil d'État. Alors, comment fêter cet anniversaire, hein, au-delà du feu d'artifice, on est tout content. Non, les archives municipales ont décidé de s'adresser aux Sétoises, aux Sétois, pour construire une exposition.
Oui.
Et donc, elle sera inaugurée le 27 septembre. 27 septembre prochain, ce sera le top départ de toutes les festivités. La mairie demande aux gens d'abord ce qui peut les intéresser, ce qui les interpelle aussi dans l'histoire de Sète, les anecdotes. Une fois qu'ils sont sélectionnés, inscrits en fait, hein, tout le monde peut s'inscrire, hein, on a donné tous les renseignements pour l'inscription. La Sétoise ou le Sétois, l'habitant, il va se voir proposer plusieurs documents qui sont issus des archives municipales en lien avec la thématique qu'il aura choisie.
Ouais.
Le résultat, ça sera donc une sélection de 350 documents. Ça peut être des délibérations, des actes d'état civil, des photographies, des plans, des cartes, qui vont donc représenter 350 histoires individuelles.
Oui.
Qui elles-mêmes vont raconter 350 ans d'histoire de la ville de Sète et de sa grande communauté d'habitants depuis ces 3 siècles et demi. Donc c'est une expo qui est pour les Sétois et par les Sétois, mais bien évidemment qui va être ouverte à tout le monde, hein,
oui.
Y a pas de souci, hein. Donc c'est une initiative qui nous semble extrêmement intéressante et originale, et voilà, donc nous expliquons tout ça.
Oui, et puis l'angle de cette initiative, comme vous le dites, Françoise, est très original, et on sait que les Sétois parlent beaucoup, ont beaucoup d'histoires à raconter. Il va y avoir des choses fantastiques qui vont ressortir de cette exposition.
Oui, puis il va y avoir beaucoup de photos, il va y avoir l'exposition, et puis il va y avoir des choses qui vont être exposées aussi à l'extérieur, le fronton de l'hôtel de ville,
oui.
dans les abribus, sur des panneaux. Il va y avoir, évidemment, puisqu'on est quand même à l'époque du numérique, il va y avoir un QR code qui va renvoyer aussi aux personnes qui auront été choisies.
Ouais.
Donc c'est sur la base, évidemment, du volontariat. On peut encore s'inscrire, on donne les coordonnées. Bon, il faut pas simplement donner son nom, son prénom,
oui,
son âge.
Hein.
Il faut aussi quelque part dire en quoi on est motivé pour participer et même déjà raconter une anecdote.
Mmh.
Et c'est vrai que c'est vraiment partir de la mémoire des Sétois pour construire cette exposition, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, quoi.
Mmh. Allez, on quitte Sète et on revient sur Montpellier, et plus particulièrement au Carré d'Art, qui est promis à une seconde vie artistique avec des travaux importants dans cette ancienne église néo-gothique.
Oui, tout à fait. Donc, le Carré d'Art, en fait, les Montpellierains, certains se souviennent, hein, qu'il a déjà été, si on peut dire, converti le Carré d'Art. Avant, c'était une église,
oui.
Hein, qui avait plutôt été convertie dans les années en 2011 en espace d'exposition d'art contemporain.
Mmh.
Donc il y a eu des grands noms et qui ont été exposés. Mais le problème, c'est que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques années,
oui.
Parce qu'en 2017, il y a un problème d'accueil du public pour sa sécurité. puisqu'il faut rénover cette église néo-gothique qui a été désacralisée, bien sûr, et donc pour qu'elle redevienne à nouveau un lieu d'accueil de l'art contemporain. Il faut savoir que c'est aussi le point, c'est un édifice qui est le plus haut point de la ville. Hein. Il culmine à 66 mètres.
Hein. Oui.
Donc c'est quand même un très bel endroit. Donc ça sera toujours dédié à la culture et l'objectif c'est que vraiment que ces trois travaux qui vont être assez lourds puisqu'ils sont financés par la ville à hauteur de 4,6 millions d'euros.
Oui, d'accord.
Ils ont été engagés là en début d'année, en février, et normalement, ça doit aller relativement vite, puisque fin 2024, et ça devrait réouvrir au public.
D'accord.
Alors, c'est vraiment un lieu qui permettra d'exposer sur une surface d'à peu près 700 mètres carrés, donc
d'accord.
C'est quand même énorme. Hein. Et ça sera toujours dédié à l'art contemporain. Et c'est la même chose, hein, c'est un peu ce qu'on disait auparavant par rapport à Sète aussi. C'est dans le cadre aussi un peu de la candidature au titre de capitale européenne de la culture.
Mmh.
Quelque part, Montpellier, qui est dans le dernier carré des finalistes, elle commence déjà Montpellier ou Sète ou d'autres communes. Hein. Il y a quand même un élan donné par cette candidature qui se traduit par la rénovation de lieux comme le carré Sainte-Anne.
Mmh.
Donc voilà, c'est on a hâte, même s'il y a de très beaux lieux d'exposition, notamment le MOCO,
oui.
Qui est le musée d'art contemporain, qu'il y ait aussi d'autres lieux qui donnent toute leur place aux œuvres des artistes de nos jours. Quoi.
Allez, parlons BD un petit peu, Françoise, avec Nîmes qui va à Bulle.
Oui, alors Nîmes, ça va être tout un week-end à partir de vendredi, samedi, dimanche prochain. Il va y avoir donc cette biennale de la BD qui va s'installer sur l'esplanade Charles de Gaulle. C'est un véritable village. C'est pas le village d'Astérix, mais presque. Hein. Il n'y aura pas que Astérix, hein, qui est un grand personnage de BD, mais il y aura des dessinateurs, des scénaristes. Ils sont 44 hein, au total à être présents et donc à faire vraiment mettre à l'honneur ce 9e art. Donc c'est à la fois, ça fait un peu aussi salon du livre, mais c'est un festival qui mérite le nom de festival, puisqu'il y a aussi des expositions, des ateliers, des conférences débats, des concerts, et la création en direct d'une fresque géante.
Ouais.
Et donc voilà, il y a aussi du spectacle qui fait qu'on peut parler de festival, de la bande dessinée. C'est pas simplement y aller pour acheter un bouquin et repartir. Bon, il y a la rencontre aussi avec les auteurs qui est toujours quelque chose, des moments toujours privilégiés et un peu uniques quand on aime un auteur en particulier et qu'on a la chance de le rencontrer. Il y a aussi une dimension que nous avons voulu mettre en avant dans le journal, c'est que il va y avoir donc des auteurs qui vont aller à la rencontre d'enfants hospitalisés à l'hôpital de Nîmes. Il y a aussi les médiathèques qui sont complètement mobilisées et qui sont ces lieux là où vraiment le livre est mis en avant et est mis à la portée de tous, puisque c'est du service public et on peut donc aller emprunter gratuitement et des livres et des bandes dessinées, enfin et des films. Donc ça c'est des lieux vraiment indispensables. Hein. Et puis il y a aussi les personnes qui sont mises au ban de la société, qui sont emprisonnées, qui sont détenues, qui vont aussi avoir la visite d'auteurs qui vont venir à la maison d'arrêt de Nîmes les rencontrer. Donc ça, c'est vraiment, ça montre la dimension, on va dire, très inclusive de ce festival, de cette biennale, absolument très populaire, intergénérationnelle.
Mmh.
Et on voulait faire vraiment un focus sur cet événement.
Eh bien voilà, tout est dit, Françoise.
Oui, je pense.
Et on vous invite, chers auditeurs, à vous rendre dans tous vos bons kiosques pour découvrir cette nouvelle édition de la Marseillaise de ce vendredi à 12 mai.
Oui, il y a bien d'autres sujets aussi. Hein. Ça, ce n'est qu'un aperçu des sujets que nous souhaitons mettre en avant sur l'antenne de Divergence. Mais il y a bien d'autres sujets, mais il faudrait avoir une émission de 2 heures.
Absolument. Et puis si on rajoute le www.lamarseillaise.fr, là, il faut une semaine.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Françoise, et on se donne rendez-vous
Bruno,
à la semaine prochaine.
Merci à tous. À la semaine prochaine.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.